Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet qui est améliorer l'UX grâce à l'UI. Est-ce que c'est possible? C'est la question du jour. À l'heure actuelle, si on regarde un peu sur l'internet, le design d'interface selon Usabilis se définit comme l'UI design désigne sa conception de l'interface utilisateur pour une application, un logiciel ou tout dispositif digital. Le design est un processus qui permet de concevoir l'interface homme-machine. En fait, dans sa définition, l'UI design englobe tout ce qui s'apparente au graphisme, à l'aspect et à l'agencement. Bon, pour moi, c'est pas que ça. Le design s'inscrit aussi dans une composante de l'UX, ou pas, certains le mettent ensemble, soit comme deux molécules à part entière, au sens où il permet de concevoir des interfaces graphiques en se basant sur les besoins utilisateurs, tout en leur donnant un aspect agréable et cohérent, et bien encore. En fait, de par son histoire liée étroitement à l'informatique, vous le savez, le design d'interface est une réponse aux contraintes d'utilisabilité informatique. Donc cette discipline, comme l'UX design, se rapproche largement de l'ergonomie. Quand on connaît les problématiques de design, on peut analyser la manière avec lesquelles les designs y répondent. Et en fait, tout ça, c'est un peu ce que j'ai trouvé sur l'internet, comme je disais. Et donc, il s'est passé récemment qu'en entreprise, j'ai dû refaire une interface d'application mobile avec une contrainte budgétaire. Donc, il n'y avait pas la possibilité, dans un premier temps, de faire de la recherche UX, d'aller revoir tous les parcours. Et au vu d'une contrainte de temps, il fallait aussi revoir les interfaces. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt lui qui a joué. Il fallait que ce soit le plus minime et que ce soit le plus simple possible pour les développeurs pour une question de temps. Donc par là, et ben évidemment, je suis passée par différentes choses. J'ai revu évidemment un peu le design system actuel en redéfinissant des tailles de titres bien cohérentes, des couleurs plus accessibles avec des pourcentages, on va dire, d'utilité. Par exemple, le noir va être plus utilisé que le blanc, etc. Des pourcentages comme ceci. Avoir une cohérence aussi dans les icônes. Que l'épaisseur soit la même partout, que les bordures radius soient les mêmes partout. Voilà, qu'on ait vraiment une cohérence dans tout, dans les espaces, à minima. On essaye au maximum que ce soit propre et que tout soit dans une grille, donc la grille de layout. Et pas que. Aussi, ce qui est cool, je ne sais pas si vous savez, mais pour les icônes, visuellement, l'œil, comme on le voit notamment en typographie, faut pas que toutes les icônes soient alignées, par exemple quand on les met toutes à côté. Il faut plutôt utiliser la perception un peu visuelle. Donc pour ça, il y a des grilles d'icônes qui permettent de bien centrer l'icône dans une petite grille et qui permettent justement d'avoir vraiment quelque chose de très propre. Et visuellement, ça donne vraiment à l'œil l'impression que cette icône est bien taillée par rapport à l'autre. Enfin bref, il faut régler tous ces petits soucis. Un truc qui est vraiment sympa aussi, c'est le design persuasif qui permet aussi notamment de mettre des éléments plus en avant ou d'utiliser encore la preuve sociale, qui est vraiment un appui assez simple avec des infos qu'on peut mettre comme Intel a utilisé aussi cette application, ou encore mettre un petit tag en mode nouveauté ou plein de choses comme ça. Ou mettre encore une carte plus en avant qu'une autre, et on peut jouer comme ça sur plein de choses. Il y a aussi la loi de Gelstadt, je crois que ça se prononce, et il y en a pas mal qu'on utilise au quotidien, notamment ce qu'on sait, donc j'ai ouvert une page pour vous citer tout ça, il y a la psychologie de la forme, la perception visuelle, etc. Et bref, il y a plein de lois dans cette loi même, et ce qui est bien, c'est qu'on va surtout utilisé en UI design, et ben tout ça pour rapprocher les éléments et pour jouer sur tous ces petits éléments-là. C'est vraiment important à connaître, on le fait souvent inconsciemment, mais c'est très utile. Et donc, dans ce cas d'école-là, j'ai revu un peu tout ça, que ce soit le plus minime aussi pour les développeurs derrière. Parce que le rôle de l'UI designer, on le mentionne pas assez souvent, mais c'est lui qui va derrière, pas inciter à ce que le développeur fasse des choses, donc on a quand même une réflexion et on doit quand même avoir une connaissance sur le développement, que ce soit applicatif, mobile, etc. pour que ce soit cohérent et discuter aussi des différentes fonctionnalités. Il y a aussi quelque chose que j'ai lu dans un livre, un e-book récemment, c'est la singularité dans les designs. Donc aujourd'hui, on a tendance justement à faire des design systems, des UI kits et d'avoir des processus très carrés et tout. Surtout en product design, on a un peu moins de créativité, je trouve. Est-ce que les designs se ressemblent tous? Donc, la grande question qui pourrait se poser aussi, c'est de savoir où est-ce qu'on met cette touche de créativité et jusqu'où on va dans les éléments. Ça, c'est une question à voir aussi, comme l'aspect green et écolo, qu'on doit penser aussi, nous, UI designers, à penser en amont. Enfin, il y a plein de choses, mais en tout cas, ce que j'ai retenu dans ce cas d'école qui était vraiment intéressant, c'était qu'on pouvait quand même améliorer l'interface ou un premier MVP dans un premier temps grâce à l'UI et apporter vraiment en second temps l'UX. Parfois ça peut être inversé. Dans ce cas d'école, c'était inversé. Et justement là, quand je travaille sur cette interface avec ce mini glow-up, derrière je vais aller faire ma recherche UX et tout reconstruire le plus proprement possible pour avoir une nouvelle version. Mais cette version 2 que je suis en train de faire prend beaucoup trop de temps pour être développée dans un premier temps. Donc pour le moment, on fait un petit glow-up. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de citations sur lui aussi qui disent, par exemple, une citation que j'ai bien aimée, donc de Papanek Victor, qui dit « L'esthétisme est l'une des armes du designer ». Et c'est vrai qu'on se rend compte que l'esthétisme, enfin du moins la beauté des choses, même si elle semble être assez floue et suivant les personnes, quand même, quand on a quelque chose de bien construit, de cohérent et avec une DA un minimum poussée, ça incite quand même à ce que l'application, même si derrière elle a des erreurs UX, à ce que ce soit plus sympa et agréable d'utilisation, je trouve. Et donc voilà. Et un article que j'avais trouvé sur Medium, que j'avais adoré, c'était l'article de Romain Dao, justement, qui disait « Vers une pénurie de bons UI designers ». Je trouve que c'est un article vraiment masterclass, qu'on devrait tous lire. Et il explique vraiment le métier de UI designer, vraiment dans l'ensemble, que je trouve vraiment cool. Parce qu'on a tendance à mettre l'UX très haut et l'UI très très bas, alors que c'est vraiment deux cœurs de métier très très complets, avec des spécificités. Et quand on pousse l'UI et quand on se forme vraiment bien nos choses, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc récapitulons ce petit article fort sympathique. Donc il aborde le sujet de la photographie dans le design d'interface, donc savoir retoucher la photo, exporter au bon format, et d'avoir donc toutes les bases théoriques de colorimétrie, de mise en situation pour des mock-ups de composition sur Photoshop, des connaissances de retouche, de remplacement et bien encore. Secondement, on a la typographie. Ce qui est vraiment bien, c'est de tester aussi, de faire ses propres typos pour vraiment comprendre comment l'œil joue les choses et tout. Au passage, si vous avez des ressources sur comment créer sa typographie, comment débuter dans la typographie et tout, vous pouvez me partager ça, on pourra en faire un sujet et partager aussi avec la communauté. Donc l'apprentissage de la typographie est un parcours long et sinueux, et c'est pour ça qu'il y a un métier qui s'appelle typographe. C'est une branche qui est complètement indépendante, on est d'accord, mais il faut connaître les principales typographies, les classements, sérif, sans sérif, toutes les typographies d'Ido, etc. Au moins connaître l'histoire des choses, le vocabulaire, donc la graisse, la chasse, l'œil. Connaître les sites, comment les utiliser, les types de tailles et bien encore. Le fond de pairing, donc vous savez, quand vous devez mettre par exemple une typographie avec un empannement qui va être très très belle, jolie, et derrière par exemple une typographie inter pour les paragraphes qui va venir justement faciliter plutôt cette lecture. Donc voilà, et puis retranscrire une idée de branding via la typographie, la retouche pour le logo, voire la création de logo, donc le branding qu'encore une autre branche de métier dans le design, etc. Et rythmer tout ça, donc la typographie avec une mise en page, bien encore. On a aussi l'aspect couleur, colorimétrie, la couleur et la typo sont un duo gagnant et qui font aussi la part d'un ou d'une nuit réussie plutôt. Donc connaître la psychologie des couleurs, c'est primordial, l'accessibilité aussi. Donc voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, au cas où, à minima, c'est de connaître un peu les types de daltonisme, les ratios de couleurs par rapport à la visibilité ou aux personnes qui ont un peu des problèmes de vue, etc. Il faut se mettre à la place de tout le monde. Et en plus, un exemple que j'adore dans l'accessibilité, exemple, vous arrivez dans un immeuble. Il y a une porte qui est super lourde. Et on pense pas forcément, quand on ne s'y connaît pas ou autre, que par exemple quand on est en fauteuil, c'est la galère, c'est la grosse merde pour pousser cette porte. Bah le jour où vous portez un énorme sac de course, bah vous êtes bien content que cette porte soit facilement ouvrable. Donc en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que quand on pense accessible, ça nous rend aussi le quotidien plus facile et meilleur pour tous. Donc voilà. Donc je reviens sur la couleur, il y a la hiérarchie d'informations que aussi pour les typos, mais aussi pour les couleurs, et puis il faut connaître tous les modes avancés, donc HSL, EXA, les Pantone, et puis savoir créer des design systems cohérents, les grayscale, les bluescale, maîtriser la gestion avancée des palettes, la programmation dans le logiciel pour des design systems, pourquoi pas. Puis tous les outils, etc. Évidemment, on a aussi les logiciels spécifiques liés au métier, et les raccourcis, enfin il y a énormément de choses, l'iconographie, bien encore, et puis connaître des bases sur d'autres choses, par exemple After Effects, ça peut être cool d'avoir des petites bases pour animer des petites choses ou savoir dessiner des petites icônes aussi des fois. Et puis la compétence primordiale, c'est le développement. Au moins avoir des bases en HTML, CSS, voire plus, si on veut aller plus loin, c'est vraiment sympa. Et puis connaître les CMS, parce que des fois, le designer ou l'UI designer se retrouve intégré. Donc, et puis pour communiquer avec les développeurs entre branches de métier, etc., il paraît que le développeur devrait avoir des bases de design pour pouvoir communiquer, et c'est là qu'on n'a pas de guerre entre les deux branches de métier. Enfin, beaucoup moins. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un sujet vraiment très vaste, avec de multiples questions. Mais je voulais vous montrer que l'UI est quand même une branche très importante et qu'il ne faut pas la négliger. Je vous mettrai toutes les ressources en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je pourrais en parler très longtemps de l'UI, donc comme de l'UX. En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura plu, que vous avez appris quelques petites notions ou pas. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo podcast. Et sur ce, ciao ciao, salut !